carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour. Waterhouse, un pré-raphaélite tardif. Au milieu du XIXe siècle, quelques peintres britanniques puisèrent dans les récits mythologiques, chez les personnages shakespeariens et surtout dans les légendes arthuriennes, afin d'exécuter des tableaux à la manière des primitifs italiens avant Raphaël. Ceci afin de retrouver la beauté et la simplicité du monde médiéval. Edward Burne Jones, Don Gabriel Rossetti et John Everett Millais furent les chefs de file de la confrérie pré-raphaélite, autrement dit pré-raphaélite Brotherhood, qu'ils avaient créé. John William Waterhouse, qui est né une vingtaine d'années plus tard que les prédécesseurs, donc 1849 et mort en 1917, aurait été le dernier des membres de cette confrérie s'il en avait fait partie. Cet artiste est né à Rome, mais a vécu dans sa prime jeunesse à Londres, près du Victorian and Albert Museum. Il fut tout d'abord considéré comme néoclassique dans l'esprit de Lawrence Alain Matadema et de Frederick Leighton. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal lui consacre une rétrospective comprenant 50 tableaux, plus une trentaine d'études à l'huile, à la craie ou au crayon, sous le joli titre de Waterhouse, le jardin des sortilèges. L'artiste, peu connu du grand public, mais dont les œuvres sont admirées par tous les amateurs de la peinture de la fin du XIXe siècle, a été marginalisé par les spécialistes de la seconde moitié du XXe siècle qui auraient découvert les pré-raphaélites. Il est vrai qu'il n'a été que rarement nommé en tant que personne dans la correspondance de ses contemporains. Ces documents n'ont pas été retrouvés et les quelques lettres de lui qui sont arrivées jusqu'à nous révèlent un manque d'expansivité. Était-il peu aimable ou d'une timidité maladive? Peut-être bégayait-il ou souffrait-il d'un handicap auditif que personne ne s'est permis de mentionner par écrit? Se demande avec son humour habituel le grand spécialiste du peintre Peter Trippi, l'un des trois commissaires de l'exposition. Quoi qu'il en soit, l'œuvre de Waterhouse nous reste et trahit un être d'une grande sensibilité, poursuit-il. Sa thématique qui s'étale sur 5 décennies a sensiblement évolué, mais comme le souligne Elizabeth Potter-John, autre commissaire de l'exposition, un trait reste constant, hormis quelques rares portraits et scènes de voyage, Waterhouse n'a peint que les sujets inspirés du passé. Et ceux-là sont empreints d'une certaine fascination pour la mélancolie, la magie et les dangers palpitants de l'amour et de la beauté, selon le mot de Peter Trippi. À la Royal Academy, où il fut reçu dès l'âge de 21 ans, les grands tableaux dramatiques de Waterhouse trouvèrent immédiatement des acheteurs. La visite à l'oracle, 1884, et Sainte-Eulalie, 1885, et le cercle magique, 1886, datent de cette époque. Déjà, 2 ans plus tôt, l'Australie avait acquis les favoris de l'empereur Honorius, dont nous pouvons voir aussi 2 grandes esquisses préparatoires différentes. Cette toile, je cite, « pousse encore plus loin la fascination croissante de Waterhouse pour la distance physique et psychologique entre une figure isolée et un groupe », note encore Peter Trippi. Si durant son âge d'or, l'artiste se particularisa dans les jeunes filles mélancoliques et l'érotisme subtil, doté d'une beauté à la fois naturelle et inaccessible, nous retrouvons davantage son inspiration toute littéraire, notamment avec la Dame de Shalott. Qui est donc cette dame? Inspirée de la Dame Hollis, The Lady of Shalott a été décrite par Alfred Stenison, 1809-1892, dans le livre de poésie le plus connu de la période victorienne. Cette jeune femme ne pouvait voir le monde autrement que reflété dans un miroir. Voyant l'image de Lancelot se dirigeant vers la tour où elle devait demeurer, elle se pencha à sa fenêtre et par là même brisa le miroir, l'obligeant à pénétrer dans la réalité. Et la jeune femme, désespérée de ne pas recevoir l'amour de Lancelot, mourut après être montée dans une barque pour se rendre vers Camelot. Elle apparaît 4 fois dans les tableaux de Waterhouse. Dans la barque, exécutée en 1888, qui l'a conduit à Camelot, donc la capitale du royaume d'Arthur. Elle figure hiératique, tenant une chaîne à la main, assise sur une tapisserie reproduisant les apparitions décrites par Tennyson. Un abbé trottant à l'amble, des chevaliers chevauchant 2 par 2 et un cortège de funérailles avec panache, lanterne et musique. Waterhouse est revenu en 1891 sur la scène, point culminant du poème de Tennyson, lorsque la dame, incapable de dominer plus longtemps son désir pour Lancelot ou de supporter sa claustration, se tourne pour regarder le monde en face. La jeune femme, penchée en avant, apparaît comme effrayée. Il en existe 2 autres versions datées de 1894, et la dernière, considérée comme une esquisse, étant, paradoxalement, à notre regard, la plus aboutie. Les trois versions sont pour la première fois réunies au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et s'y ajoute l'exemplaire des œuvres d'Alfred Lord Tennyson, donc publié à Londres par Macmillan & Co. en 1885, sur lequel Waterhouse a dessiné des jeunes filles, des études qu'on retrouve dans les différents tableaux, dont la Dame de Shalott face au verre, « Je suis l'as des ombres ».